Oui, ah, ça va. Nous avons vu ensemble, tout au long de l'année, les différents aspects de l'Alliance au travers de Noé, Abraham, Moïse, les prophètes et Jésus. Je voudrais simplement dire un mot des premières, notamment celle de Noé, où Hachem, donc c'est Dieu, a choisi pour signe l'arc-en-ciel, qui symbolise le passage du mauvais au beau temps, de l'épreuve du déluge au miracle de la survie. De même, la circoncision d'Isaac symbolise l'épreuve de l'exposition à la mort où Moïse s'apprête, non c'est Abraham pardon, s'apprête sur l'ordre de Hachem à tuer son fils après lui avoir lié les mains, on pourrait dire relié, origine du mot religion, et là encore, l'épreuve Ness a été substitué par un miracle qui se dit aussi en hébreu « Ness ». Pour parler de temps plus proche de notre époque, juste avant la guerre de 14-18, il s'est constitué en Europe une triple alliance entre l'Allemagne, l'Italie et la Autriche-Hongrie face à une triple entente entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Pour les deux groupes, il y avait une menace, une épreuve. De là sont nées des unions entre les peuples, une entente, chacun essayant de prier son prochain de l'aider, et chacun essayant d'entendre cette prière, un vrai miracle. Je viens d'assister, la semaine dernière, à un séminaire médical dont le sujet était « Comment annoncer une mauvaise nouvelle ?» On nous a recommandé d'être très à l'écoute du ressenti du patient à la suite de l'annonce, de nous rapprocher de lui, de lui tenir la main, ou plutôt l'avant-bras, pour éviter toute ambiguïté dans ce geste, bref, de nous rapprocher de lui. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais revenons à la notion d'alliance, brit en hébreu. Ce mot est composé de quatre lettres que nous allons essayer de décortiquer. L'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, dont l'ordre est assez proche de celui de l'alphabet latin. Par exemple, on verra se succéder Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun pour J, K, L, M, N, ou encore Kuf, Resh, Shin, Tav pour Q, R, S, T, sur les dernières lettres. On leur attribue une valeur numérique qui va servir de calcul de ce qu'on appelle la gématria, c'est le nom qui a donné le mot géométrie. Les 9 premières lettres sont décomptées en tant qu'unité, les 9 suivantes en tant que dizaines, et les dernières sous forme de centaines. Alors essayez donc de calculer la valeur numérique des lettres dans le mot Bérit. Donc Bet, ça serait combien? 2. Yod, 10. Resh, R, ça fera 200. Et Tav, voilà, donc 200 plus 400 fait 600, plus 10 ça fait 610, plus 2 ça fait 612. Il suffit de rajouter 1, puisque nous sommes monothéistes, pour comprendre que pour faire alliance avec Hachem, il faut être à l'écoute de ses conseils et mieux respecter au mieux les 613 mitzvot qu'il nous a donné. En tant que juste. C'est des commandements, c'est des sortes de commandements qui nous sont destinés en tant que juifs. Bet, donc la première lettre qu'on voit à gauche, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Regardons avec attention sa forme. Vous voyez qu'elle est fermée sur 3 côtés. Elle semble nous dire de ne pas réfléchir à ce qui est au-dessus de notre tête, ni en dessous de notre pied, de nos pieds. De ne pas regarder non plus vers l'arrière, comme l'a fait la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel. Par contre, elle garde un petit contact lâche avec le ciel et avec notre passé, avec notre histoire, nos ancêtres, nos parents, et c'est ce qui exprime la petite pointe vers le haut et vers l'arrière. Le kaf qu'on voit à côté, sur la droite, lui ressemble beaucoup, mais elle n'a pas cette petite pointe vers l'arrière, elle ne tient pas compte du passé. Enfin, Le bête regarde vers l'avant, donc vers l'avenir. Pour un occidental, elle donne l'impression que de regarder donc vers l'arrière, puisqu'on est habitué d'écrire de la gauche vers la droite. Mais notre écriture, comme celle des Arabes, va de la droite vers la gauche. Les dernières élections le prouvent. Que représente la gauche? C'est le côté du cœur. On va de la droite qui représente le droit, la justice, l'égalité, vers la gauche qui représente un peu le social, donc le socialisme, la mise en commun, le communisme, bref, l'autre, notre prochain, notre frère, et donc c'est la fraternité. Donc on passe de l'égalité vers la fraternité. Le bête ressemble, on peut dire aussi que le bête ressemble à une maison, avec un seul niveau, avec un plafond, un mur, un plancher et une porte grande ouverte. C'est tout l'opposé de la lettre B en français, qui comporte deux niveaux, deux étages, et qui est totalement fermée. C'est la forteresse latine. La valeur numérique de la lettre bet est 2, alors que celle de la lettre Aleph est 1. Le péché d'Adam et Ève va transformer le 1, donc le Aleph, éternel, androgyne, stérile, en un 2, qui sera éphémère, mais éternel par sa descendance et par sa potentialité duplicatrice et donc multiplicatrice. On dit bien croiser, multiplier. Ainsi, le couple est un commencement. La jonction d'un bet à un aleph donne av. Hein, vous lisez bien de la droite vers la gauche. Hein. Donc ça fait av, le premier mot. Il va, on dit ba, vers l'inverse de bet et aleph, vers la femme qu'il aime. Et en, en hébreu, ça se dit ohev, c'est-à-dire c'est aleph et bet, mais avec un petit ev en milieu. Il va créer une descendance. On peut dire donc que 1 et 1 font 3. Beth est la lettre de la création. La Torah commence d'ailleurs par un Beth. Bereshit bara Elohim, ça veut dire au début, l'Éternel créa. La dualité crée un flux énergétique par la différence. C'est le plus et le moins de la pile ou de la batterie. C'est le pôle sud et le pôle nord de l'aimant, le chaud et le froid, l'hiver et l'été, la moisson et la récolte, le jour et la nuit, la gauche et la droite, le bien et le mal. Et nous allons essayer de faire le meilleur choix en élisant ce qui nous paraît le meilleur. Et la femme est plus apte à faire ce choix par sa nature. L'ovule doit en effet choisir parmi des millions de spermatozoïdes celui qu'elle acceptera pour féconder son futur enfant. C'est ce qu'on appelle chez nous la bina, l'intelligence. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il a fallu attendre en 1945 pour accorder le droit de vote aux femmes françaises. Le coq aussi a cette intelligence pour distinguer entre le jour et la nuit. C'est une des premières bénédictions qu'on lit dans notre prière du matin. Baruch Ata Hashem, Eloheinu Melech Haolam, Anoten la servi, Bina, Leachrin, Benyon, Umbein, Laila. Ça veut dire donc béni sois-tu, maître de l'univers, qui a donné l'intelligence au coq de distinguer entre le jour et entre la nuit. Ben donc signifie entre. Le choix s'affine avec le temps, avec la construction de notre personnalité. C'est pour ça qu'on ne fait pas voter, par exemple, des enfants. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle le fils Ben. Il a besoin d'étudier pour arriver à cette sagesse innée qu'a la femme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont dispensées d'étudier. Le Noun représente la moitié du Bet, soit 50%. Hein, vous voyez sur le dessin, donc on a l'impression comme si le bête avait été coupé en deux. C'est un bête en construction. Sa valeur numérique est d'ailleurs 50, parce que ça fait 50%. Deux en hébreu se dit shnaim, c'est-à-dire ou second se dit sheni. Donc on voit deux lettres qui reviennent, le shin et le nun. Cette racine évoque deux choses. Le changement, la mutation. À Pâques, par exemple, on chante le célèbre Manishana à Laïla Azé. Pourquoi cette nuit est-elle différente? En quoi change-t-elle des autres nuits? La fête de Rosh Hashanah indique le changement d'année et comme toute mutation, comme toute épreuve, on prie qu'elle se fasse dans la douceur. Shnaim évoque aussi la répétition, la duplication. Le nom Shinaim, qu'on donne aux dents, est là pour rappeler qu'on a eu successivement deux dentitions, une temporaire et une définitive. C'est un petit peu comme les tables de la loi. Les premières temporaires ont été brisées à la suite de la faute du veau d'or, et les secondes sont un héritage définitif. Si tant est qu'on prenne soin d'en prendre, les respecter, comme on prend soin de nos dents. La prière du schéma Israël nous enseigne qu'il faut répéter à nos enfants l'enseignement de la Torah. On dit « Veshinantam levanecha », tu les répéteras, tu les inculqueras à tes enfants. La Mishnah, c'est la répétition d'ailleurs de la Torah. La lettre Bet évoque aussi l'intériorité. Nous en avons dit un mot pour la maison. On dit Isha Babaït pour dire que la femme est dans la maison. Contrairement à l'homme où le testicule, on l'a vu récemment avec M. Fachler, et le pénis témoignent de sa masculinité, les organes génitaux de la femme sont à l'intérieur de son corps. Son vagin a la forme d'un bec tourné à 60 degrés. C'est un organe vide qui peut accepter qu'on le remplisse comme un verre vide qui accueille l'homme, comme on dit en hébreu « kabel ». Et c'est ça qui a donné le nom de Kabbal. Il est prêt à entendre et à s'entendre avec son prochain dès lors qu'on respecte un certain degré de maturité qu'on appelle pureté. Cette vacuité est celle de l'endeuillé qui vient de faire un des siens, on appelle ça Evel, ou de celle de l'Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités, tout est vanité, Evel ». Avelim, Kol et Vel. On reconnaît dans tous ces mots le radical Vel ou Bel qui signifie en hébreu sang, on dit Béli. Cet aspect négatif aura une contrepartie positive, c'est la création d'un flux énergétique puissant. C'est en effet grâce au vide que les ampoules brillent fort. Si mon carnet de rendez-vous est plein, je n'aurai pas beaucoup de temps pour écouter mes patients. Dans une salle de cours, il faut du silence pour pouvoir communiquer correctement. Ce n'est pas pour rien qu'Hachem a choisi le désert pour énoncer ses 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles. Parole en hébreu se dit daber, et désert se dit midbar. On reconnaît donc du mid de Ber, hein, c'est-à-dire l'endroit où on peut se parler. Le radical bar est commun à de nombreuses racines. Il est le symbole de la communication, du passage, de la porte ouverte. Avar signifie passé, passé ER ou passé et accent aigu. Ivri, qui en dérive, veut dire hébreu. Sans doute parce qu'il a traversé la mer Rouge, puis le Jourdain, pour rentrer en terre d'Israël. Ou encore, c'est parce qu'il fait un juif errant, qui passe. Ou encore, parce qu'il parle beaucoup et qu'il cherche à communiquer avec son prochain. Ou encore, c'est parce qu'il fait des avérotes, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de la loi. En effet, ce n'est pas facile de respecter 613 mitzvot. Donc on a vite fait des avérotes. Réver, c'est l'ami ou l'associé. En français, le phonème bar a le même, enfin des significations qui sont finalement assez proches. Le bar, c'est un endroit où on se rencontre, où on peut communiquer, sauf quand il y a trop de monde ou qu'il y a trop de bruit. La barre est aussi un endroit où on peut exprimer, enfin, où peut s'exprimer un prévenu pour essayer de montrer son innocence. Dans les deux cas, en même temps que l'idée de communication, il y a une idée de séparation, de distinction. Même dans un bar, il y a les clients, et puis de l'autre côté du comptoir, ben, il y a celui qui sert. En psychothérapie, on doit garder ses distances avec son patient. Sinon, se produit une fusion qui est néfaste. On doit avoir de l'empathie et non pas de la sympathie si on veut l'aider. À propos, est-ce que vous connaissez l'origine de la barre du 7 ? Bien, je vais vous l'expliquer. Cela viendrait pour certains humoristes du fait que quand les béné Israël ont écouté le 7e commandement, ne fais pas d'adultère, ils ont crié Barre le 7, c'est trop dur pour nous. En hébreu, le radical bar a donc un sens de communication, on pourrait même dire de communion. On l'a traduit, à mon avis, à tort par fils, par opposition à bat, fille, quand on parle de bar mitzvah. En fait, c'est la notion d'alliance ou bérit qui en est le participe passé, qui vient d'ailleurs du verbe boré qui signifie créer. Et en fait, la bar mitzvah, c'est la création d'une alliance. Les filles sont-elles exclues de cette alliance ou de cette bénédiction? Pour essayer de répondre à cette question, je vous lirai un message que j'ai lu avec ma fille Julie lors de l'anniversaire de ses 12 ans, qui était donc le moment où elle a fait sa bat ou bar mitzvah, ça dépend comment on veut l'exprimer. Alors je me mets à la place de Julie, je pense avoir plus de merci, ça va. Voilà 12 ans que j'ai vu le jour dans une clinique d'Aubervilliers. C'était la fin d'un Shabbat bien laborieux pour maman, qui m'a donné le nom de sa maman, Suzanne, ou celui de Rachel, car elle était allée sur son tombeau pour demander un enfant, alors que papa m'a donné le nom de la mère de papy, Julie, et également celui de Brigitte. Il va vous expliquer pourquoi. Donc c'est maintenant mon tour de parler. En effet, du fait qu'elle était née pendant cette première semaine de lecture de la Torah, donc début octobre, qui était également la première de sa vie, j'ai voulu l'appeler comme la première paracha, le premier mot de la Torah, si évocateur du début des choses, à savoir Bereshit. Mais le rabbin n'a pas accepté ce nom. Et pour rappeler phonétiquement ce nom auquel j'étais attaché, je l'ai appelé Brigitte. Ce mot a fait l'objet de plus de 500 commentaires, et permettez-moi de vous en faire un de plus. Voilà, c'est Julie quand elle était petite. Alors, donc vous voyez le terme Bereshit qui est écrit en entier, en haut. Alors, si on enlève le bet à Bereshit, la première lettre, on obtient Reshit, qui veut dire le début. Si on enlève le Aleph et le Shin qui sont blancs, on trouve Bérit de nouveau, l'alliance, comme la Bérit Mila des garçons. Autrement dit, dès qu'on lit le premier mot de la Torah, c'est le début de la relation qui unit les garçons avec Hachem. Les filles en sont-elles exclues? Doit-on être déçu d'avoir une fille? Eh bien non, car si on enlève le resh et le yod, donc celles qui sont en bleu, il reste à Bérit, donc il reste bat, B et T, les deux lettres en rouge. Et si on mélange, donc c'est latine, et si on mélange toutes les lettres qu'on a enlevées, donc celles du milieu, on les mélange entre elles, on en met le R à côté du I, eh bien on obtient Ashrei, qui veut dire heureux. Cela veut dire deux choses. Quand j'ai voulu appeler ma fille Bereshit, j'ai été très heureux d'avoir une fille. Et que par l'alliance qu'elle contractait avec Hachem, dès sa naissance, elle était sûre de vivre une vie longue et heureuse. Tout doucement, nous glissons de la lettre Bet à la lettre Resh, qui termine le radical Bar. La lettre Resh, nous le verrons dans un instant, symbolise la lumière. Non, c'est celle qui est à droite, hein. Par la parole, et ce ne sont pas les psychologues qui nous diront le contraire, on fait la lumière sur les troubles que présente un patient. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Il y en a des alliances, hein. Tout comme le bet symbolisait l'extérieur, le tzadi qu'on voit sur la gauche symbolise l'extérieur, le X de l'extérieur. Associé au resh, ça donne tsar. La lumière ne vient plus de l'intérieur, par la parole, qui est source, on dit d'ailleurs en hébreu pour le dire source, berer, de bénédiction, beracha, ou baraka pour ceux qui parlent en français. Baruch signifie bénir, bien dire, c'est-à-dire dire des bonnes choses. Quand elle est remplacée par le mal dire, on appelle cela de la médisance. Dans la Torah, on parle de lettres. On appelle ça tsara'at ou metzora. On reconnaît le radical tsar. Cela signifie qu'il est nécessaire, alors nécessaire en hébreu ça dit tsorer, on a toujours le tsar, et de clore, et là on dit atsar, atsor, otsor, la discussion, d'ailleurs la fête de Jemi Atseret. On clôt la discussion. Il faut isoler le médisant. Comme on isole le lépreux, en le plaçant en dehors. Le tzadi est un symbole de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en exil, en quarantaine. Ou si c'est un enfant, on le met au coin. Il doit trouver la lumière de l'extérieur en réfléchissant sur sa façon de communiquer et sur la nécessité, on retrouve ce horaire, d'y mettre les formes, et formes ça se dit yetzer. La lettre Resh a une forme courbée qui se relève légèrement. C'est celle qu'on voit donc sur la gauche. Hein. Elle a la forme d'une tête, on appelle ça roche, de profil ouverte à la communication par les organes des sens, les yeux, les oreilles. Elle ressemble aux dalettes. Et d'ailleurs, Rash et Dalet, hein, qu'on voit sur la droite, signifient tous les deux, enfin Rash et Dal plutôt, signifie tous les deux pauvres. Leur racine est instable, mais elle s'enracine comme une plante. Racine en hébreu, ça se dit shoresh. C'est une racine qui est composée de trois lettres, comme toujours en hébreu. Il y a le resh qui est au centre, et autour il y a deux chines qui servent de tuteur, comme un plant de tomate. Et les recherches, on dit Doresh, on dérive le mot de Bidrash. Grâce à l'enseignant, on appelle ça un Moré, il va voir, on dirait, la lumière divine hors de la Torah. Cette lumière est accessible à tous. Et d'ailleurs, le mont Sinaï a été choisi parce que c'est un petit sommet. Même les âmes peuvent y parvenir. La Torah nous apprend à craindre, on dit Yireh, les mauvaises actions, on dit ra, ou la méchanceté, on dit racha. Et si nous respectons notre contrat d'alliance, l'Éternel nous récompense par un enracinement dans le pays où il nous a destinés et par la possession entière de notre héritage. On appelle ça Yerush Shalem, qui donne Jérusalem. Sinon, il va nous déraciner et nous expulser, on dit en hébreu garoche, pour voir nous condamner à la peine capitale, capitale c'est la tête, donc roche, notamment pendant la période du 9 av, ou dans les yamin noraim, qui veut dire les jours redoutables, qui sont au nombre de 10, qui séparent entre la fête de Rosh Hashanah et celle de Kippour. Cela nous amène à parler de la dixième lettre, le Yod. Yod tire sa grandeur du fait que c'est la première lettre des trois noms de l'Éternel. Il y a Yah, il y a le tétragramme qu'on n'a pas le droit de prononcer, mais vous savez à quoi ça correspond, et Adonai. Et comme il ne faut pas représenter d'image de Hachem, exceptionnellement, cette diapo sera sans image. C'est aussi la première lettre de grands patriarches et de grands prophètes comme Yitzhak, Yaakov, qui a été rebaptisé Israël, Yosef, Yoshua, Yeshiaou, qui est Isaïe, et Yérémiaou, qui est Jérémie. Et bien que ce soit de grands prophètes et de grands patriarches, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Elle a une petite pointe vers le haut, qui reçoit le message divin, comme la pupille de nos yeux, petite chambre noire, qui reçoit les informations visuelles. Elle a aussi une petite pointe vers le bas, qui transmet. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Le yod a pour symbole la main. On appelle ça yad. Cette main qui pointe sur le texte lorsqu'on lit la Torah, ou cette main de Fatma, protectrice, qui est appelée en arabe Hamsa, Hamsa, commune aux juifs et aux musulmans. Comme les cinq doigts de la main, elle représente les cinq livres du Pentateuque. Yad a aussi une autre signification qui nous est donnée dans Isaïe 56, 5. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Et c'est pour ça qu'on a appelé le mémorial qui désigne le nom et le lieu de ceux qui sont morts pendant la Shoah sans laisser de descendance, Yad Vashem, qu'on voit sur la droite. Le Yod, I ou J en français, est la plus petite lettre de l'alphabet dans toutes les langues. Elle occupe peu de place. C'est un concentré de l'existence, un zip. Une cellule embryonnaire multipotente. Un noyau, un atome, par définition indivisible, indestructible, plein d'énergie créatrice. Il est recroquevillé dans son point, qu'il surplombe, que ce soit un I ou un J. Par contre, ce point est absent, curieusement, dans le I grec. Dans le I grec, et dans le iota, qui est la lettre I en grec, hein, c'est ça qui est amusant. Mais les deux n'ont pas le point. Ce peuple n'aurait-il pas un mois démesuré. Le Yod définit le juif. On dit le Yid, on dit le Yud, on dit le Yehudi, on parle en Yiddish. Son peuple est petit, mais il a résisté grâce à l'aide de Hachem aux nombreuses tentatives d'extermination totale par les peuples qui l'entouraient. Et puis enfin, le juif se pose toujours des questions. C'est un véritable point d'interrogation. Le I symbolise la première personne du singulier dans toutes les langues. On dit je, on dit I, on dit io, on dit ich. Et c'est pour cette raison que Steve Jobs a mis un préfixe I à de nombreux personnel digital assistants tels que iPod, iPad, iPhone. En hébreu, le yod est à la fin du je, ani. Ou anori. Le jeu humain ne doit pas être un anori. Il est réservé à Hachem. C'est un jeu solennel. Moi je. Donc c'est un terme réservé à Hachem ou à la rigueur au président de la République. L'homme doit se faire petit, comme un point, humble par rapport à son prochain, pour être muet à son écoute. Hachem lui-même se rétracte, Tzimtzum. D'ailleurs, pour ne pas prononcer son nom, on intercale un point entre le D et le I. Yod est aussi un préfixe qui est signe du futur, mais à la troisième personne du singulier. Yigdal, par exemple, ça veut dire « il grandira ». Le futur, c'est demain. D-E-M-A-I-M. Mais aussi, demain, de Yadayim. Il y a de D-E-U-X, plus loin, M-A-I-N-S. Et voilà d'ailleurs. Yad a pour valeur numérique, alors je vous laisse calculer, c'est le en rouge, donc le I et le D. On a 10 plus 4, donc ça fait 14. Demain, ça fait combien donc 14 fois 2. Donc ça fait 28. 28, c'est la valeur numérique de Kohar, qui correspond à la force. Alors, ce Kohar, on le voyait en bleu, hein, donc il y a le Kaf qui ressemble un petit peu au Bet, et le Het, qui est une sorte de petite table qu'on voit dans les unités. Donc ça fait combien? Kaf, ça fait combien? 20. Et Kaf, oui, c'est pareil. Donc ça fait 8 pour Het, et Kaf, ça fait 20. Donc 20 plus 8, ça fait 28, donc comme 2 Yad. Donc c'est la puissance créatrice de deux êtres qui se donnent la main pour recevoir ou pour donner. Quand il s'agit d'un homme et une femme, cela peut aboutir à un engendrement. Sinon, ça peut aboutir tout simplement à une amitié, à favoriser la construction d'un projet ou la connaissance des secrets divins, en particulier pour la recherche médicale ou scientifique notamment. Et c'est ça qu'on appelle le Netilat Yadayim. Ça ne veut pas dire laver nos mains, mais c'est élever nos mains. Par contre, quand une main, un yod ou un point se situe l'un au-dessus de l'autre, comme vous le voyez en dessous, eh bien, cela peut aboutir à une rupture de communication. C'est ce que symbolise les sof pasuk, qui sont les deux points superposés, qui se trouvent à la fin des versets de la Torah. En fait, il existe deux types de juifs, au moins. Les juifs qui se sentent toujours juifs. Et puis ceux qui se sentent juifs que lorsqu'ils sont menacés, comme par exemple pendant la guerre de six jours. C'est ce qu'on appelle les juifs du Kippour. Ils ont un noyau de judaïsme en profondeur, mais ils ne rejoignent les premiers que lorsque le peuple juif est menacé. Et les jours redoutables qui séparent Rosh Hashanah du Kippour en sont le symbole. C'est pour ça qu'ils viennent à la synagogue à Kippour. Le Yod, c'est enfin la dixième lettre de l'alphabet. C'est le nombre des doigts des deux mains. C'est la base des mathématiques ou du calcul décimal. C'est la base également du calendrier révolutionnaire de Fabre d'Églantine. Il parlait de décades et non plus de semaines. Et on dit que le monde a été créé en 10 paroles, que les béné Israël ont reçu les 10 commandements, qu'il faut 10 fidèles pour faire un minyan et pour dire le kaddish, qu'il faut distribuer la dîme, c'est-à-dire le dixième de ses richesses aux pauvres. On a l'arbre de la Kabbale avec ses 10 séphirotes. On a également la harpe à 10 cordes du monde futur. Donc ça, c'est un petit peu tous les éléments positifs du 10. Après, il y a le moins 10 qui sont les aspects négatifs, les 10 plaies d'Égypte, les 10 manifestations des Juifs dans le désert contre Dieu, les 10 mauvais explorateurs qui ont refusé d'aller voir le pays sur l'ordre de Dieu, le pays d'Israël, les 10 jours redoutables du début de l'année qui précèdent Kippour, et pendant lesquels on prie Hachem afin qu'il nous inscrive dans le livre de la vie. Ce qui nous amène à parler de la dernière lettre, Tav, dernière lettre également de l'alphabet, lettre de la mort, Met, de la fin, Tarlit, mais aussi de l'immobilisme. Elle ressemble à un Resh, auquel qu'on aurait stabilisé avec un pied. L'écriture en est le symbole. En effet, écrire en hébreu, ça se dit kotev, qui signifie littéralement frapper, c'est le kaf, dedans, bet, autrement dit graver, inscrire de manière définitive, et c'est là qu'on trouve le tav. Hein, c'est pour ça qu'on parlait d'inscrire dans le livre de la vie. La ketouba, qui est l'écriture de l'acte de mariage, en est la consacration de cette écriture. Pour autant, cet acte fiche-t-il le destin du couple? Est-ce que cet acte est-il irréversible? Eh bien non, sinon il n'y aurait pas de divorce. Et pourquoi n'en serait-il pas de même pour la mort? Est-ce que la résurrection des morts ne serait pas une sorte de divorce avec la mort? Comment peut-on écrire? Comment peut-on figer une alliance? Eh bien par un signe, on dit en hébreu « ot ». L'arc-en-ciel, la circoncision sont une signature de cette alliance. C'est une sorte d'accusé de réception. En grammaire, on parle d'accusatif, et en hébreu, on place devant un complément d'objet un et, aleph et tav. Mais comme pour un mariage et pour le divorce, c'est un contrat qui ne reste valable que s'il est respecté. Alors que le verbe représente l'action, le substantif, dont le préfixe ou le suffixe comporte un tav, représente l'immobilisation de l'action. Par exemple, lomed, ça signifie apprendre. Talmud signifie l'étude. Yashuv, ça veut dire retourner. Teshuva, ça veut dire le retour. Dans le droit chemin. Domé, ça veut dire ressembler. Demut, ça veut dire ressemblance ou image. Boré signifie créer. Berit signifie création, alliance. De même, le mot Shabbat vient du mot Yoshev, qui veut dire s'asseoir. C'est l'aboutissement de la création. On s'assoit. On rentre à la maison pour fêter cette coupure de la semaine ou retrouver une forme de vide pour mieux communiquer avec les siens. Lors du kiddush, on dira « Vachamaru bene Israël ta Shabbat ». Les enfants d'Israël observeront le Shabbat. Vous voyez, il y a « et à Shabbat ». La asot est à Shabbat berit olam. Ils feront du Shabbat une alliance éternelle. Beni ou ben bene Israël, ot il et olam. Donc ben, on a vu, c'était voulu dire entre moi et entre les enfants d'Israël. Ot i, ce sera un signe, léolam, éternel. Qui chéchet yamim asa hachem et hachamaim et haaretz, car en six jours, Dieu a fait le ciel et la terre, à chaque fois il y a un et, ou bayom hachevii, le septième jour, Shabbat vaynafash, il s'est reposé, et on pourrait dire que le mot vaynafash sous-entend qu'on profite de cette intimité à deux, comme les bougies de Shabbat ou à deux, donc comme les bougies de Shabbat qui sont à deux, ou comme les deux pains de Shabbat, pour essayer de procréer. C'est donc une phase qui précède la création qui va commencer au début de la semaine suivante. Nous avons donc le droit de procréer, mais pas de créer, hein, et même le devoir. Le Tav représente enfin le don, le cadeau. Nathan signifie donner. Les prénoms Nathan, Matthieu en dérivent. Matana, c'est le cadeau. On en offre lors des périodes de mutation, notamment lors des anniversaires. Cela permet de compenser la peine qu'on a de prendre une année de plus. C'est le mot Nathan qui est à l'origine du mot français natalité, naissance, nation et même Noël, qui fête la naissance de Jésus. Ce même Jésus qui a fait don de sa vie, de son corps et de son âme. C'est une sorte de testament qu'il partage avec l'humanité tout entière, comme certains peuvent léguer leur fortune à leurs enfants ou à des associations avant leur mort, ou encore donner leur corps à la médecine. En retour, ils reçoivent le respect de leurs descendants, qui rappellent le souvenir régulièrement. Chez nous, ça s'appelle le Yahrzeit. Et ainsi, on leur donne une certaine forme d'éternité. Cela a été particulièrement vrai pour Jésus, qui s'en est trouvé déifié. Au total, même dans la mort, il y a des échanges à double sens, une certaine forme d'alliance. Ainsi, tout au long de la vie, notamment quand on passe des épreuves, comme la naissance, l'adolescence, où on devient adulte après avoir appris la loi, le détachement des parents pour former une future famille, ou enfin à la mort, on a besoin de se sentir épaulé par les siens et par Hachem au travers de manifestations sacrées telles que la Berit Milah, la Bar Mitzvah, le mariage, on offre des alliances, ou l'enterrement. J'espère maintenant que vous êtes bien imprégnés du sens du mot Berit, qui nous fait entrevoir la beauté et la richesse de la langue hébraïque. J'ai été bien aidé par les émissions sur les lettres hébraïques de la source de vie présentées par Josué Zenberg et Adin Steil-Stals, qui vont sortir en novembre prochain un livre sur l'alphabet sacré que j'attends avec impatience. Et pour la mise en page, j'ai également utilisé les modèles de lettres du site francespiritualité.fr. Je vous remercie de votre attention.
Je tiens vraiment à remercier particulièrement Patrick pour ce remarquable travail. Il a dépassé les 20 minutes autorisées, entre guillemets, mais je crois vraiment que si nous attendons une nourriture à l'extérieur, là je crois qu'on a une nourriture intérieure vraiment extraordinaire. Et nous aurons certainement tous besoin d'aller sur le site pour revoir tout ça. Tellement c'est complexe, tellement c'est fort, intéressant, il y a une information extraordinaire, puis surtout il y a un humour formidable. Bon, on va bien dire peut-être qu'on retrouve cet humour juif, n'est-ce pas? Mais c'est un très très beau travail et je pense qu'on peut encore vraiment remercier Patrick. C'est formidable, vraiment, merci. Alors, les boîtes passent maintenant qu'il fait clair ou que la lumière nous est revenue. Et puis ensuite, lorsque les boîtes seront passées, ben, je vous invite à nous retrouver de l'autre côté pour partager un repas et puis peut-être toutes vos impressions. On ne va pas les partager ici, ce serait peut-être... pas perdre du temps, non, de ce partage, mais de l'autre côté, ce sera bien. À tout de suite.